Alors voilà, c'est sur le père parce que j'ai découvert que le mois d'août, c'était un mois que le père avait envie qu'on lui consacre. Vous savez, il y a le mois de juillet, c'est le mois du précieux sang. Le mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph. Et le mois d'août, eh bien, le père désire que ce soit le mois où on pense davantage à lui. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vais commencer par cette invocation qu'il a donnée lui-même et qu'il aimerait bien que l'on dise. C'est Père divin, doux espoir de nos âmes, sois connu, honoré et aimé de tous les hommes. Père divin, bonté infinie, qui s'exerce envers tous les peuples, sois connu, honoré et aimé de tous les hommes. Père divin, rosée bienfaisante de l'humanité, sois connu, honoré et aimé de tous les hommes. Vous voyez, c'est un désir du Père. Alors le Père, eh bien, on pourrait se dire que faut-il chercher sa face ? Dans l'Ancien Testament, dans un psaume, le psaume 27, vous avez cette phrase. « mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Mais depuis David, à peu près moins 500 avant Jésus, depuis David, eh bien Jésus est venu. Et lui, il a affirmé « qui me voit, voit le Père. Et le Père et moi, nous sommes un. » Donc, est-ce que Jésus ne suffit pas? Nous avons un seul Dieu, hein, mais en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous savons qu'entre elles, ce sont des relations d'amour. Donc le Père se donne entièrement au Fils, et le Père répond en se donnant entièrement au Père, et cela crée la personne de l'Esprit. C'est la personne de l'Esprit. Donc, elles se donnent l'une à l'autre. C'est pas pour ça, cependant, que ce sont trois personnes identiques. Et je vous donne juste un exemple. C'est Jésus qui dit que seul son Père connaît l'avènement du Fils de l'homme. C'est dans Matthieu, chapitre 24, et la même chose dans Marc 13. Quant à ce jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors on va voir trois points. D'abord, qui est le Père? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'être fils? Et troisièmement, qu'est-ce que c'est que cette fête du Père? Alors, qui est le Père? Eh bien, c'est le Créateur. Il parle. C'est un Créateur qui parle. Il a créé par sa parole. Hein. Il a créé le monde. Le Père est celui de qui vient tout ce qui existe. C'est lui qui dans le Christ et par le Christ, est à l'origine de tout. Il ne reçoit pas d'ailleurs ce qu'il est. Tout est en lui. Nous, on reçoit la vie. Et s'il ne pensait pas à nous en ce moment même, avec dans son amour, nous n'existerions plus. De nos parents, nous, on a reçu. Nous, on est des êtres, on est des créatures, parce que nous, on reçoit. On a reçu la vie de nos parents, qui l'ont reçue en remontant à Adam et Ève, et de Dieu qui les a créés. Donc, la nature du Père, c'est vraiment d'être Père. C'est Jésus qui nous le révèle. Le Père se donne au Fils. Tout m'a été confié par le Père, tout. Jésus a tout reçu du Père. Aussi est-il le Verbe, c'est-à-dire celui dont la parole est agissante, comme celle de son Père. Quand Jésus dit à l'aveugle « vois », eh bien l'aveugle voit. Le Verbe était Dieu, dit saint Jean. Alors il y a des hommes qui ont entendu la voix du Père, vous le savez, hein, au baptême comme à la transfiguration, le Père s'est fait entendre. On a entendu « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et à la transfiguration, il a même dit « écoutez-le », ce qui est un commandement. « Écoutez-le », a dit le Père. Certains l'ont approché de près, comme Moïse, hein, au buisson ardent, comme Élie qui l'a entendu dans le vent. Et Dieu a parlé clairement à Moïse, hein, va voir Pharaon. Donc le Père, il voit, il entend, il parle, hein, c'est pas un nuage, hein, c'est quelqu'un. Le Fils a pris chair et lui, il est venu révéler encore davantage le Père. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, dit saint Jean. Et Matthieu dit ceci, « personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors vous voyez, si le Père pour vous n'est pas proche, moi je sais bien qu'il y a une date, c'est à Perpignan que j'ai vraiment découvert la personne du Père. C'est une expérience que l'on fait, de même qu'on découvre l'esprit, on découvre, après on découvre des saints, enfin, on n'a jamais fini de découvrir le monde du ciel, on n'a jamais fini. Et donc personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Car dans le cœur humain, dans le cœur humain de Jésus, il y a la présence trinitaire, la vive flamme de l'amour trinitaire. Et cette flamme de l'amour trinitaire n'annihile pas son humanité. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, dit Jésus. Alors, il nous l'a fait connaître par sa parole, mais il nous l'a fait connaître par son être même, par lui-même, hein, par sa vie. Il a manifesté combien le Père était primordial pour lui. Rappelez-vous, à 12 ans, hein, il quitte à Jérusalem, il quitte Marie et Joseph pour rester au temple. Hein, et il dit, quand Marie lui dit, regarde, vois ton Père et moi tout angoissés, nous te cherchions, il répond, je dois être dans la maison de mon Père. À la croix, quand il s'écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» hein, c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire que là, il laisse sa divinité, hein, et c'est dans son humanité, il exprime cet abandon qu'il ressent de Dieu, et il s'anéantit, il ne ressent plus cette présence trinitaire et aimante du Père dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il dit après ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il se tourne encore vers lui pour lui remettre l'esprit, cet esprit qui est répandu à la croix, hein, notamment par le sang et l'eau qui coule de son cœur, et cet esprit que nous recevons dans les sacrements et qui sera donné à la Pentecôte pour la naissance de l'Église. Et il l'avait dit, hein, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il l'avait dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est-à-dire de sauver l'homme en lui donnant l'Esprit Saint. Hein, c'est la louange qu'on a eue ce matin. Hein, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la vraie liberté de faire le bien. Et la première chose que Jésus ressuscité fait, d'ailleurs, c'est qu'il souffle sur eux, comme à la création le Père avait soufflé sur l'argile. Jésus ressuscité, il souffle sur ses apôtres, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. La nouvelle création, comme nouveau. Alors, le jeudi saint déjà, il a voulu nous laisser sa présence réelle et cachée dans l'hostie, pour demeurer en nous et pour nourrir son Église. Et il a dit, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel et qui donne la vie au monde. Donc quand on communie, on peut toujours aussi remercier le Père qui nous a envoyé la vraie nourriture. Et pensons à cette prière que tous les chrétiens récitent, hein, la prière du Notre Père, une prière de Jésus, donc ce sont des paroles divines, hein, c'est la prière vraiment... la plus importante, hein. Révèle-nous, montre-nous le Père, révèle-nous le Père, et Jésus, il nous donne cette prière. Donc ce sont des paroles créatrices, et à chaque fois qu'on le dit, eh bien on rentre dans les désirs de Dieu, parce que ce sont les désirs de Dieu qui sont exprimés dans le Notre Père. Et Jésus, il voudrait que les désirs de son Père deviennent les désirs de nos cœurs, à nous, les hommes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ce sont les demandes que le Père aimerait qu'on lui fasse vraiment du fond du cœur. Donne-nous le pain de ce jour, l'Eucharistie. Pardonne-nous, aide-nous à pardonner. Et Jésus, dans son humanité, met son cœur d'homme dans toutes ses demandes. Et il nous y entraîne à le faire, à l'imiter. Délivre-nous du mal, que nous ne cédions pas à la tentation. Et puis Jésus aussi nous entraîne à louer son Père. Il a dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'être père? Eh bien, on le sait, être père, c'est avoir une fécondité, notamment des enfants. Ça peut être une fécondité spirituelle, puisqu'on dit mon père spirituel, par exemple, mais ça nous implique. D'une manière spéciale, ça crée un lien très fort. C'est mon père, c'est mon père adoptif, c'est le père, et aussi quand quelqu'un a créé quelque chose, on dit c'est le père de l'aviation, alors c'est un lien, on s'implique. Alors nous, eh bien, on est appelé à devenir de plus en plus des fils. Jésus, il nous révèle ça, il est le fils égal au père, et il veut nous rendre, nous, des fils adoptifs. Alors on peut dire, ben moi je suis pas à la hauteur, mais ça tombe bien parce que vous l'avez entendu à la louange, Jésus nous demande d'être petit. Le Père veut qu'il aime les petits, notre Père du ciel. Il dit, et Jésus l'a dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors c'est ce qu'avait dit Sainte Thérèse, elle avait dit, en fin de compte, il faut passer par-dessous. Voilà, il faut l'humilité. Et on dit d'ailleurs de Marie qu'elle a plu au Très-Haut parce qu'elle était petite. Il a regardé l'humilité de sa servante. On voit bien que Jésus lui-même, il est venu dans la pauvreté, l'humilité, la crèche, la croix. On attendait plutôt, les Juifs attendaient plutôt, que Dieu se révèle dans le faste, dans l'éclat, dans la gloire. Mais Jésus, par là, il a voulu montrer que le plus important, c'est l'amour. Il a dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. L'amour s'est fait cœur en Jésus. Et ce repos, c'est cette paix intérieure qu'il nous offre. Donc on n'a pas un Dieu qui nous écrase, on a un Dieu qui nous relève. Alors il y a eu des fausses images de Dieu, on a parfois des fausses images de Dieu d'ailleurs qui nous viennent de notre Père. Mais le Dieu que nous avons, c'est un Père qui nous relève. Regardez Marie, vous l'avez vu hier, il ne laisse pas Marie servante. Il la fait reine du ciel et de la terre, la reine immaculée de l'univers. Et c'est une reine qui est douce, une reine qui est pure, une reine qui est humble, qui ne garde rien pour elle, qui est à l'image de Dieu. Saint Jean Eudes, c'était la fête la semaine dernière. Il explique, il dit ceci. Le cœur du Père est à Marie, comme le cœur le plus aimant de tous les pères est à la plus aimable de toutes les filles. Et réciproquement, le cœur de Marie est au Père, comme le cœur de la meilleure des filles est au meilleur des pères. Vous voyez la proximité que le Père veut avoir avec nous, puisque c'est bien dit, le Concile l'a bien dit, Marie, elle est ce que nous serons, elle est l'Église en son état futur. Donc c'est cette proximité du Père dont il faut reprendre conscience. Et en fait, le Père, il nous donne l'égalité par le don. C'est le roi qui épouse la bergère devient reine. Eh bien, le Père, il nous veut ses enfants, il nous élève, comme il a élevé Marie. Et dans toutes les religions, c'est le Père Bernard Péhous qui disait ça. Il disait que depuis le début du monde, on a à peu près recensé 4000 religions. Et en fait, il y en a très peu qui disent que Dieu est amour. On a vraiment cette grâce, nous, de savoir qu'on a un Père. Et il faut le dire. C'est Jésus qui disait, si nous savions le don de Dieu. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les hommes trouvent ce don dérisoire. Ils trouvent qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, des personnes beaucoup plus intéressantes. Les idoles du foot, les idoles de la mode, les idoles de la chanson. Et ils ne se tournent pas vers leur Père. Ils s'en vont des chemins de traverse, comme le fils que l'enfant prodigue. C'est un petit peu comme... Et puis alors quand ça va mal, c'est un petit peu comme le fils du pompier, le fils du pompier qui met le feu dans sa chambre, et puis avec son petit saut de plage, il va chercher à éteindre le feu, jusqu'au moment où, évidemment, il appellera son père, mais bon, il aurait dû y penser tout de suite, quoi. Et en fait, on compte toujours, on préfère compter sur nous. Hein. Alors quand nos cœurs s'ouvriront-ils pour accueillir le don de Dieu en plénitude ? Alors quand ce sera ça, eh bien Dieu pourra être tout en tous. On aura cette civilisation de l'amour qui nous est promise et que l'on exprime quand on dit dans le Notre Père que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, je voudrais parler maintenant comment on peut refuser d'être fils. On peut refuser d'être créature, on peut refuser d'être fils. Hein, c'est le péché originel, hein, d'ailleurs. Et notamment par l'orgueil. J'ai lu un livre, un petit livret de Xavier Martin qui s'appelle « L'homme rétréci par les lumières ». Vous voyez, on dit que Dieu veut nous élever, et là c'est l'inverse. « L'homme rétréci par les lumières ». On décide soi-même de ce que l'on est, et on ne veut surtout pas être des fils. On décide soi-même qui vaut la peine d'exister. Alors je vous cite quelques philosophes. Pour Diderot, il y a seulement certains dans l'humanité qui méritent le nom d'homme. Un de ses grands amis, qui s'appelait le baron d'Holbach, disait « Dans l'espèce humaine, il y a des êtres aussi différents les uns des autres que l'homme l'est ou du cheval ou d'un chien. » Donc il n'y a plus tellement de frontières, ni entre l'homme et l'animal, elle devient floue, et en fin de compte, il n'y a plus d'espèce humaine. Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ressemblent. Voltaire, lui, ne voit dans l'embryon qu'une petite masse de chair qu'il n'est pas grave de dérober aux misères de la vie. Il dit aussi que rien n'est inné. Rien n'est inné. Donc rien, on n'est pas créé, si vous voulez, hein. Rien n'est inné. Ce sont seulement nos sensations qui créent la raison. Si bien qu'en fait, l'homme n'est ni libre ni responsable. Et on peut le téléguider par des sensations, par des accoutumances et des conditionnements, par une insistance soigneusement dosée. L'homme est manipulable, on peut télécommander ses comportements. On voit bien avec les lavages de cerveau. Comme le suggérait Rousseau, on peut s'approprier l'homme, l'enlever à Dieu, l'ôter à Dieu. N'est-ce pas un danger ? Et Voltaire manifeste aussi du mépris pour l'homme. C'est en 1775, il disait « Le plus grand nombre, ce sont des brutes. Le genre humain pensant, c'est le 100 000e du genre humain, tout au plus. » Diderot ajoutait « Seuls certains méritent le nom d'homme. L'unité du genre humain est désintégrée, du coup, hein, de ce fait-là. » On arrive à la notion de race supérieure et inférieure. Les gens du peuple sont entre l'homme et la bête. On assimile le paysan à son bétail. Ne comptez comme prochain que les gens qui pensent. Le sot n'est pas notre prochain. Et c'est pas tout ce qui est faible est rejeté. Tout ce qui est pauvre est rejeté. Quand à la louange on a lu « Redevenez comme des petits-enfants ». Voilà, les petits-enfants, ils font pas le tri, hein. Pour Rousseau même, la femme est inférieure intellectuellement. C'est un matériau biologique de reproduction. Et pour Voltaire, Jésus-Christ, c'est un juif obscur de la lie des peuples, un charpentier de Nazareth ignorant. Voilà. Par contre, l'élite, ça c'est... Les philosophes des Lumières se sont voulu mettre du critère de l'humanité. Et en conclusion, on peut en dire que l'homme en est sorti rétréci. Quant au Père, eh bien lui, il crie toujours quand il voit l'état de notre monde et l'état de nos cœurs. Hein, eh bien, il crie toujours « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Es-tu près de moi ?» Le Père, lui, ce qu'il veut, c'est nous glorifier. Il a envoyé son Fils, dont les flots d'eau et de sang ont coulé de son côté transpercé. Et on fait naître l'Église. Ève, elle est sortie du côté d'Adam, l'Église, elle est sortie du côté du Christ. Ça veut dire que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Il veut qu'elle soit son égale, il veut tout lui donner, de même que le Père a tout donné au Fils, le Fils veut tout donner à l'Église. Par l'eau du baptême, nous sommes purifiés. Par le sang, nous sommes rachetés de nos fautes. Notamment, nous sommes recouverts du sang du Christ à chaque fois que le prêtre nous donne l'absolution au sacrement de réconciliation. Hein, c'est, vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob, il reçoit la bénédiction du Père parce qu'il est recouvert des poils de chèvre pour imiter son frère. Hein, il reçoit, et bien nous sommes recouverts du sang du Christ. Et Jésus et le Père, il voit Jésus. Il voit le sang de son Fils sur nous et il nous pardonne nos péchés. Si bien qu'on peut s'exclamer avec cette oraison de la messe, qu'on dit à la messe, Dieu qui avait de façon admirable créé la dignité de la nature humaine et l'avait restaurée en Jésus de façon plus admirable encore. On est restauré. Et saint Jean, dans l'Apocalypse, nous dit ceci. Jésus nous aime et nous a lavé de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. Donc ici, c'est l'homme augmenté. On peut donc être dans la gratitude. On a qu'est-ce que ça veut dire être prêtre pour nous, laïcs, hein, de prêtre, prêtre, prophète et roi. Prêtre, ça veut dire qu'on peut offrir notre vie et l'unir à celle de Jésus, notamment à la messe. Vous savez, la petite goutte qu'on met, la goutte d'eau qu'on met dans le vin, hein, c'est nos efforts, nos peines dans le travail, nos peines de cœur, tout ça. Et quand elles sont dans le vin qui est transformé en sang, on les distingue pas, elles sont devenues le sang du Christ, les gouttes d'eau. Donc nous sommes aussi rois, hein, puisque nous pouvons offrir nos vies, nous pouvons offrir cette goutte d'eau avec le sang du Christ, nous pouvons l'offrir pour la rédemption du monde, nous pouvons l'offrir pour un tel qui a des soucis de couple, pour un tel qui est malade, pour un qui vient de mourir. Voilà, et c'est dans ce sens que nous pouvons nous unir à l'œuvre de l'Esprit-Saint qui transforme les cœurs et le nôtre. Et on devient de plus en plus libre de faire le bien. On règne sur nos passions. Et être prophète, qu'est-ce que c'est ? Ben, être prophète, vous voyez, ce matin, quand on ouvre la Bible, quand on donne des images, ben, elles viennent pas de nous, c'est l'Esprit-Saint qui ouvre la Bible à la bonne page. C'est l'Esprit-Saint qui donne une image. Donc on devient prophète. Et ainsi, en étant prêtre, prophète et roi, eh bien, on ressemble de plus en plus à Dieu. On est destiné à être divinisé. C'est la quatrième place de l'icône, de l'icône de la Trinité de Roublev. Il reste une place, la quatrième. Le père Daniel Ange disait « Je lui donne mon humanité, il me donne part à sa divinité. » C'est ce qu'a fait la première de nous, la première en chemin, la Vierge Marie. Dieu l'a appelée maman. Et aujourd'hui, je peux dire à Dieu, papa, je peux dire notre père, car Jésus est devenu mon frère. Même Jésus dit ceci, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors regardons cette proximité que Dieu souhaite avoir avec nous. Nous l'avons dans l'Eucharistie, cette proximité avec Jésus. Nous pouvons aussi l'avoir avec le Père. Le nom du Messie, c'est « La Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu, toute la Trinité. La réalisation du plan de Dieu sur l'humanité, c'est « Dieu sera tout en tous ». Et je vous cite sainte Thérèse qui parle de l'Eucharistie. « Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. » Et vous avez aussi une personne qui se fait appeler la fille du soleil, qui ne donne pas son nom, mais qui a écrit plusieurs livres où Jésus lui a parlé. Et elle dit ceci, Jésus dit, « Par mon Eucharistie, vous me possédez, et dans l'unité du Saint-Esprit, vous possédez le Père, parce que le Père et moi, nous sommes un. » Le Père agit par son Verbe qui est le Fils et par son amour qui est l'Esprit Saint. Et aucune de ces personnes, cependant, n'agit à l'extérieur, indépendamment des deux autres. Alors je termine avec une citation de Sainte Gertrude qui nous décrit l'Assomption de Marie. Moi j'aime beaucoup Sainte Gertrude, c'est une des premières qui a connu le, qui a parlé du Sacré-Cœur, Sainte Gertrude. Et elle, par une illumination divine, elle a vu cette Assomption de Marie, elle l'a décrit. Vers la troisième heure de la nuit, Marie s'élança au devant du Seigneur avec une grande joie, la conscience parfaitement pure. S'envolant ainsi dans les bras du Seigneur, elle devint un même esprit avec lui. Elle pénétra dans la toute-puissance et la béatitude de la divinité. Et quand on pense, hein, je le répète, que le Vatican II a dit que Marie représentait l'Église dans son état d'achèvement futur, ah ben, ça fait rêver, hein. Et vous voyez, même ce qu'il y a de négatif dans nos vies, eh bien, il y a comme une alchimie, c'est transformé. Hein, c'est saint Paul qui nous dit ceci dans les Corinthiens. Hein, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent, hein, la moindre souffrance, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est 2 Corinthiens chapitre 4. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est vraiment cette gloire à laquelle nous sommes appelés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout. Alors vraiment, tournons-nous vers le Père, adorons-le, comme saint Paul le dit, « Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » Et demandons à l'Esprit-Saint de répandre en nos cœurs l'amour du Père, qu'il nous fasse nous écrier « Abba », ça veut dire « Papa chéri », pas seulement du bout des lèvres, hein. On pourrait chanter, si vous voulez, « Ô Père, je suis ton enfant, hein. ». Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Alors, il y a ce conseil de Jésus qu'il a donné à Gabriel Bossi. Gabriel Bossi, il y a un livre qui vient de, avec tous ses écrits, et qui vient de sortir. Et elle a écrit ce recueil, s'intitule Lui et moi, Jésus et moi. Et elle dit ceci, partage ta journée entre, c'est Jésus qui dit ça, hein, partage ta journée en trois phases. Le matin, à ton réveil, donne-toi au Père Créateur qui t'offre son Fils en nourriture. Après la messe, donne-toi au Fils qui est en toi et endors-toi dans le Saint-Esprit qui est l'amour. Eh bien, commencer sa journée en priant le Père, c'est honorer le Père. Alors maintenant, nous entamons la troisième partie. C'est depuis 2 ou 3 ans, au mois d'août, et maintenant il y a des fêtes du Père éternel qui ont lieu à des endroits, comme par exemple cette année, le 1er août, c'était à Saint-Denis-du-Maine, à la cité de l'Immaculée. Et le 7 août, c'était dans la Creuse, à Notre-Dame-du-Moulin. Voilà. Mais il y a eu certainement d'autres fêtes, mais c'est celle que j'ai vue. Voilà. Alors ce 1er août et ce 7 août, c'est pas du tout des dates au pif. C'est parce que le Père a demandé à une religieuse qui s'appelle Mère Eugénie Ravasio, dont on va parler maintenant, et il lui a demandé qu'il y ait une fête en l'honneur du Père, comme il y a une fête en l'honneur du corps et du sang du Christ, comme il y a des fêtes pour Marie, comme il y a la Pentecôte pour l'Esprit Saint. Mais si vous réfléchissez, il n'y a pas de fête pour le Père. Et il a proposé 2 dates, soit le premier dimanche d'août, soit le 7 août. Et vous voyez, là, c'est les 2 dates que j'ai vues cette année dans des revues, c'était ça. je vais lire un peu, vous lire un petit peu sa vie de Mère Eugénie Ravasseur. Alors, elle est née en 1907, le 8 septembre, dans la province de Bergame, en Italie. Elle s'appelait Elisabeth. Elle est venue au monde à 6 mois, on l'appelait Bettina. Et en fait, elle a végété jusqu'à l'âge de 4 ans, elle ne marchait pas. Alors, le grand-père a fait un pèlerinage à pied à Notre-Dame de Varèse. Et au moment où ils sont arrivés au sanctuaire, Elisabeth, qu'on appelait Bettina, elle a vu s'approcher d'elle une dame très belle qui lui dit d'aller voir sa maman. Donc elle retourne vers sa maman et là, elle s'est mise à marcher. Elle va faire sa première communion à 6 ans, en fait par erreur, parce que le curé l'avait confondue avec sa cousine. Elle en a eu une joie immense. Quand elle était enfant, elle trouvait que le Notre Père était trop long. Et puis elle avait peur. Il lui faisait peur, ce père. À 12 ans, elle a pris le chemin de l'usine. Elle est partie travailler en usine. Et c'est là qu'elle a eu la première apparition de la Sainte Vierge, à 12 ans. Elle a vu la Sainte Vierge entourée d'anges qui lui a demandé de veiller une heure tous les soirs. À 20 ans, elle a beaucoup d'admirateurs, notamment le fils de son patron. Mais elle dit à son père, « Papa, je veux être religieuse. » Donc elle est devenue religieuse et à 21 ans, elle a pris l'habit en 1928 et elle s'est jetée dans les mains de la Madone qui l'a portée dans le cœur de Jésus. Jésus lui a fait comprendre que nous ne connaissons pas la grandeur, la douceur, la paternité, la longanimité, la miséricorde, la tendresse, la providence, l'attention maternelle et l'affabilité attentive que le Père a pour chacun de nous. Et quand elle a pris son habit, on l'a appelée Eugénia. Donc d'Élisabeth, elle est passée à Eugénia. Monseigneur Alexandre Caillot, qui était l'évêque de Grenoble, a ouvert une enquête sur elle. Voici les passages que je vous lis de cet évêque. Dès son entrée au couvent, elle avait été remarquée par ses supérieurs pour sa piété, son obéissance et son humilité. Elle fut d'ailleurs choisie comme supérieure générale de sa congrégation, malgré son peu d'instruction et son jeune âge. Elle avait 28 ans. Quand elle est devenue supérieure. Et en raison de ses qualités de jugement, d'équilibre mental, d'énergie et de fermeté. Elle a bénéficié d'extases, de merveilles eucharistiques, elle a vécu des jeûnes prolongés jusqu'à 20 jours et elle a été stigmatisée. En 6 ans, elle a fait 67 fondations. La mission qui lui a été confiée est précise, je vous l'ai dit, c'est faire connaître et honorer le Père de Jésus, notamment par l'institution d'une fête demandée à l'Église en raison des œuvres de bonté et de miséricorde paternelle, ceci pour le retour des âmes vers leur Père des cieux. Si bien que l'évêque conclut, je déclare que l'intervention surnaturelle et divine me paraît seule capable de donner de l'ensemble des faits une explication logique et satisfaisante. Je crois qu'il y a là le doigt de Dieu. Et après 10 années de recherche, de réflexion et de prière, dit l'évêque, je bénis le Père d'avoir daigné choisir mon diocèse comme le lieu de manifestation aussi touchante de son amour. Vous voyez, c'est un petit peu comme Sainte Marguerite qui avait été choisie pour demander la fête du cœur de Jésus, hein, qui a lieu en juin, ou comme Sainte Faustine qui a été choisie pour demander la fête de la miséricorde que Saint Jean-Paul II a établie le dimanche juste après Pâques. Alors ça, c'est une fête qui est demandée, elle n'est pas encore établie par l'Église, mais c'est important de prier pour qu'elle le soit, parce que c'est pour nous, c'est une richesse, c'est une grande grâce. Alors pourquoi une fête du Père? Eh bien c'est pour qu'il soit plus visible, plus aimé. On a, comme je vous disais, il n'y a rien de particulier aujourd'hui pour la fête du Père. Toute l'œuvre de sanctification de l'humanité résulte de son amour paternel. Et au terme, on a vu que le Père a envoyé son Fils. Au début, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a envoyé son Fils. Qui enverrai-je, hein? Et c'est Jésus qui répond, envoie-moi. Et au terme de l'histoire, eh bien, tout lui sera soumis. Le Christ remettra la royauté à Dieu le Père. Quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en toutes choses. Tout doit être assujetti au pouvoir suprême du Père, de sorte qu'il pénètre et transforme définitivement l'humanité et l'univers. Tel est le destin final du monde, triomphe d'un amour paternel. Comme le Christ, qui dans sa vie terrestre avait conscience de venir du Père et d'aller au Père, l'Église doit en prendre davantage conscience. Ce serait la fête d'Abba, ce Père qui veille sur nos besoins et qui s'intéresse aux détails de nos vies, qui écoute nos demandes et accueille avec miséricorde et joie ceux qui demandent pardon. Ce Père qui compatit avec ceux qui souffrent. La fête du Père contribuerait à renouveler chez beaucoup l'image de Dieu. Elle attirerait l'attention sur le modèle divin de la fécondité, sur l'éducation. Ce pourrait être une occasion de rassemblement aussi avec nos frères séparés et être facteur d'œcuménisme. L'Église pourrait mieux chanter sa reconnaissance au Père et faire connaître son nom aux hommes. Voilà. Alors en ces temps de détresse, nous vraiment demandons ensemble la protection, sa protection au Père. Alors je vais terminer en vous donnant quelques messages du Père. Le premier a été donné le 1er juillet 1932. Mais je vais commencer par une petite explication que le vicaire général a donnée. Voilà. Donc c'est le vicaire général 519-133. Alors c'est sœur Eugénia qui, le père qui dit ceci à sœur Eugénia. Pour te parler, voici le moyen, plutôt la manière dont moi le père je me sers. J'éteins en toi tout ce qui est humain. Ainsi ton esprit peut me voir et m'entendre aussi distinctement comme première personne divine. Ton esprit peut me voir et m'entendre aussi distinctement comme première personne divine, telle que je veux être honorée par ce culte que je demande aux hommes. Donc il y a dans le cœur du Père un grand désir d'attirer les infidèles. Le Père étant esprit ne peut évidemment être représenté tel qu'il est en lui-même. Mais Dieu s'est montré à Moïse, il peut se montrer sous des formes diverses. Et il l'a fait avec Mère Eugénia, puisqu'il est esprit, il peut prendre forme. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'hommes qui se perdent, et le Père, dans son amour infini, peut se servir d'un moyen nouveau pour les réveiller. Alors Mère Eugénia, elle écoutait, puis elle écrivait. Et quand elle écrivait, on pouvait passer devant elle, elle voyait rien, elle était en extase en fait. Elle écrivait en étant en extase. Alors ça n'est pas une vision corporelle qu'elle voyait, elle voyait avec son âme. Si, parce que si on le voyait dans sa majesté telle qu'il est au ciel, on ne pourrait pas supporter sa vue. Quand il se montre, il est bien toujours dans sa gloire, mais il la cache pour qu'on puisse le contempler. Ses yeux ont une expression tellement bonne, c'est le Père qui vient pour pardonner. Vous voyez, ça vous explique un petit peu comment ça se passait. Bon, évidemment, c'est mystérieux, hein, mais voilà. Alors là, c'est une lettre de la sœur Eugénia à un prêtre, le père Valencin. Il est le Père. Le Père, me disait-il, le Père le plus indifférent de la terre, pourrait-il souffrir que l'un de ses enfants se perde ? Je suis le meilleur des pères, et mon amour ne peut se contenir pour mes enfants. Ils sont vraiment sortis de mon sein paternel. Même s'il s'agit d'un homme arrivé à un âge avancé, cet homme est pour moi comme l'enfant qu'une mère porte dans ses bras. Je suis charité. Vois, ma petite, comme le monde est aveugle. Vois-tu comme les hommes dorment et reposent dans la fange des honneurs et des plaisirs? Vois-tu combien de troubles dans la société, dans les familles, dans les nations, dans les cœurs? Vois-tu encore combien de malheureux qui souffrent et qui sont privés du nécessaire pour leur subsistance? Vois-tu combien de larmes que les justes sont obligés de verser par la méchanceté des autres? Vois-tu enfin combien le monde a besoin d'un secours puissant, plus sensible et plus compatissant? J'ai envoyé mon fils, mais à la vue de tant de malheurs que le péché attire sur l'homme, mon cœur de père ne peut se contenir. Et il cherche à mettre la paix et à les attirer tous à lui, en leur faisant connaître leur devoir de créature avec leur créateur et d'enfant avec leur père très aimant. Il faut que je sois mieux connu des hommes pour être plus aimé et honoré par un culte dû à mon amour de père pour l'humanité entière. Si j'étais connu, je pourrais mieux me manifester à l'homme. Un dimanche, je vais à la chapelle sans rien penser qu'à adorer Jésus. Mais notre père, à l'instant même où j'étais arrivée à ma place, m'appela. Je reconnus sa douce voix. Je lève les yeux et je le vois là, tout près de moi, assis sur des nuées, tout éclatant de gloire. De son sein ouvert sortait une grande lumière et une douce flamme un peu agitée. Cette lumière et cette flamme s'étendaient par leurs reflets sur le globe du monde qui se trouvait au pied de notre Père. Quelques minutes après, j'ai vu dans cette lumière Jésus qui sortait du sein de son Père. Jésus avait son cœur ouvert et à cet instant, sortait de son cœur sacré un homme grand et majestueux. Une voix se fit entendre, disant « Voici ma fille que j'ai engendrée deux fils, l'un par nature, l'autre par adoption. » Il a vu que je ne comprenais rien. Alors il me dit en me signalant Jésus « Celui-ci est mon fils par nature, parce que c'est le Verbe de Dieu et il est Dieu, moi en lui, lui en moi. Nous sommes unis comme un seul Dieu par la vertu de mon esprit qui est un même Dieu. » Me signalant l'homme qui sortait du cœur de Jésus, il me dit « Celui-ci, c'est mon fils par adoption, parce que je l'ai arraché de l'abîme de sa perdition par l'immolation de mon propre fils dans le mystère de la rédemption. Il représente toute l'humanité que j'ai créée. » Et il me dit, « Mais ce fils d'adoption n'est pas aussi fidèle à son père que mon fils par nature. » Ce fils d'adoption n'est pas aussi fidèle à son père que mon fils par nature. Il ne me connaît pas. De là vient le mal, de là vient que le mal le submerge de toutes parts. Et après tant d'amour que je lui témoigne, plusieurs des hommes qu'il représente se perdent misérablement pour toute l'éternité. Il me dit qu'il veut être connu, aimé, honoré des hommes, tel qu'il doit être connu, aimé et honoré, et pour cela il désire établir une fête en son honneur. Il me recommande aussi la sanctification du dimanche, en disant « Ce jour qui m'est consacré pour m'honorer et glorifier, c'est le jour où je suis le plus offensé et le plus délaissé. » Tu as vu souvent jaillir de mon sein une lumière éclatante, comme les rayons jaillissent du soleil, sans se séparer de son disque radieux. Et dans cette lumière, tu as vu un foyer qui semblait allumer un incendie entre Dieu et l'homme. C'est le mystère de mon amour de Père envers ma créature, envers l'humanité. Vous voyez, après toutes ces rencontres avec le ciel, eh bien, sœur Eugénia commentait. Si vous avez vu Dieu une seule minute, vous comprendriez que ma vie désormais sera un purgatoire. Voilà, et terminons avec deux choses. Je vous répète, et on peut le dire ensemble, soyez connus, honorés, aimés de tous les hommes. Hein. Père divin, doux espoir de nos âmes, soyez connus, aimés, honorés et aimés de tous les hommes. Père divin, bonté infinie qui s'exerce envers tous les peuples, soyez connus, honorés et aimés de tous les hommes. Père divin, rosée bienfaisante de l'humanité, soyez connus, honorés et aimés des hommes. Et j'avais aussi... voilà. Vous avez aussi, donc ça c'est dans les, c'est juste avant la guerre, hein, 40, tout ça. Et vous avez en 2012 Marie, reine de la paix, qui parle à Suléma. Suléma est venu à Guine. C'était Jacques-Yves Desmiter qui l'avait fait venir. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu. Suléma va partout. Elle est accueillie par les évêques. Elle a été notamment dans la crypte de la basilique de Lourdes, annoncée qu'on devait se préparer à l'illumination des consciences. Avertissement. Donc voilà ce que Marie lui a dit en 2012 à propos de cette fête du Père, de ce mois d'août. Voici comment c'est le mois que mon fils Jésus a voulu voir dédié à Dieu le Père, pour que ses enfants le reconnaissent comme le vrai Père, leur Créateur. Tous mes enfants, l'univers, la création, il l'a créé pour vous. Les siècles ont passé, on a oublié combien le Seigneur est bon, on a déformé sa parole, on l'a présenté comme un Dieu vengeur, lointain, et pire encore, on est allé jusqu'à nier son existence. On se moque de lui, on ne veut pas de lui, on le ridiculise ouvertement. Alors mon doux Jésus vous a demandé à vous, mes enfants de lumière, d'honorer votre cher Papa des cieux par la prière, l'adoration et la louange pendant ce mois d'août, d'une façon particulière, d'intercéder pour vos frères et sœurs du monde entier pour que leur cœur s'ouvre à la grâce et qu'ils reviennent à lui. Vous que mon fils a choisi, il a mis chacun et chacune à sa place afin que vous donniez des fruits pour le royaume. Alors regardons en conclusion l'humilité de Dieu, regardons sa bonté, sa paternité, manifestons-lui notre confiance, cherchons à l'imiter, prions pour que l'Église mette en place cette fête. Et cette fête a été demandée également à 3 autres religieuses, une américaine, une française et une belge. Et ce sera, ici à cette fête, je l'ai dit un moment, ce sera vraiment une fête pour toutes les familles. Le pape François, il a fait une lettre en présentant le père des familles de la terre, hein, en disant combien le père devait être présent à ses enfants, à sa femme, et voilà. Eh bien, contemplez comment le Père du Ciel est Père, donc pour l'éducation, comment le Père du Ciel dans les familles, pour trouver notre place, pour etc., eh bien c'est vraiment utile.